Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Nous, on revient d'une semaine de vacances, donc on est explosé de fatigue, oui. Les vacances avec les enfants, ça fatigue. Toujours est-il que c'est le grand retour du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles avec aujourd'hui une émission très forte et le témoignage du journaliste Mohamed Bouafsi. Alors Mohamed Bouafsi, vous le connaissez très certainement si vous êtes des fans de foot. Il a longtemps été journaliste, notamment sur les chaînes du groupe RMC où il couvrait le foot, où il était l'un des journalistes les plus connus, les plus célèbres en France pour ceux qui suivent le foot. Depuis cette saison, il est chroniqueur journaliste dans l'émission C'est à vous sur France 5 et Mohamed Bouafsi vient de publier un livre très fort, très poignant, je le dis tout de suite, où il raconte les violences quasi quotidiennes que lui a fait subir son père lorsque Mohamed était petit. Un livre très important, un témoignage très fort, surtout qu'aujourd'hui Mohamed Bouafsi est très investi sur ces sujets, la lutte contre les violences faites aux enfants. Donc on écoute le témoignage de Mohamed Bouafsi et puis on le débrief juste après avec une psychologue, Mélanie Dupont. C'est parti pour le podcast des maternelles.
Alors, il y a des chiffres qui sont insupportables, voilà, à dire, à entendre. En France, chaque année, plus de 50 000 enfants sont victimes de maltraitance. Et tous les 5 jours, un enfant décède sous les coups infligés par ses parents. Bonjour Mohamed Bouafsi.
Bonjour Agathe.
Merci d'être avec nous. Je sais que c'est douloureux en fait de raconter, de re-raconter son histoire comme ça. Il faut déjà, d'ores et déjà le dire, vous le faites pour la cause. Voilà, ça c'est vraiment important. Vous avez 29 ans, il y a beaucoup de téléspectateurs qui vous connaissent évidemment, parce que vous êtes journaliste dans l'émission C'est à vous sur France 5. Jusque l'âge de 8 ans, vous avez été battu violemment par votre père. Vous témoignez de cette enfance brisée dans un formidable livre qui s'appelle « Rêver sous les coups ». C'est chez Larousse. Merci d'aborder avec nous cette part sombre de votre vie personnelle. Quelle était votre situation de famille quand vous étiez petit, qu'on comprenne un petit peu le contexte?
Alors, jusqu'à mes 8 ans, j'ai grandi avec mon père et avec ma mère. Donc, ma mère était ce qu'on appelle une sans-papier, une femme en situation irrégulière. Et donc, mon père avait les papiers. On a grandi ensemble jusqu'à 5 ans, l'âge où mes deux demi-frères et sœurs nous ont rejoints à la maison. Donc, jusqu'à 8 ans, j'ai grandi avec mon père jusqu'à qu'il parte.
Votre père, il avait un café ?
Oui.
Et c'est votre maman qui travaillait dedans, c'est ça ?
Mon père était propriétaire d'un café à la gare du Nord qui s'appelait le Paris-Athènes. Donc il était propriétaire de ce café, mais il ne travaillait pas dedans. C'est ma mère qui travaillait dedans, qui s'occupait de tout, tous les jours, de l'ouverture le matin, 6h30, 7h, jusqu'au soir, 23h. Donc elle s'occupait de tout dans le foyer.
Donc elle trimait et lui, pendant ce temps-là, il bossait pas ?
Non, il ne bossait pas, puisque ce que je le raconte dans le livre, il y a une sorte d'emprise qui se crée, parce que lui a les papiers, ma maman n'a pas les papiers, lui ne travaille pas, elle travaille pour amener de l'argent dans le foyer. C'est un moment qui est extrêmement difficile, parce qu'elle s'occupait de tout, elle s'occupait vraiment de tout, et lui ne s'occupait de rien, et quand il s'occupait de choses, c'était des choses qui étaient extrêmement désagréables et violentes. Mmh.
Alors, quel type de violence est-ce que vous avez subi, vous et votre mère aussi ?
Alors, ce qui est assez fort, et on appelle ça l'amnésie traumatique, c'est d'habitude, normalement, jusqu'à 3 ans, le cerveau fait reset et on a très peu de souvenirs avant 3 ans. Et moi, en revanche, j'ai très peu de souvenirs avant 4 ans et demi, 5 ans. J'ai quasiment aucun souvenir. Et c'est dans l'écriture de ce livre que j'ai commencé à avoir des souvenirs. Donc, ça a commencé par des coups, tout de suite. Tout de suite, mes premiers souvenirs avec mon père, c'est les coups. C'est les coups sur ma mère. C'est ma mère qui a été tout de suite victime de ces coups-là, même si ma mère m'a expliqué parfois qu'il y a eu des coups quand j'étais très, 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 très jeune. Et j'ai compris un jour, j'ai compris assez rapidement, quand je voyais les coups subis par ma mère, quand je voyais la violence que ma mère subissait, j'ai compris que quand je me jetais dans les genoux de mon père, quand je me jetais dans les jambes de mon père, il arrêtait de taper ma mère et il me tapait moi. Et ce déclic-là, je l'ai eu vers 5 ans. Et vers 5 ans, je me suis rendu compte que je voulais sauver ma mère. Je voulais sauver ma mère parce que c'était la chose la plus importante pour moi. Et donc, la violence a été physique. Sur moi, elle s'est répétée plusieurs fois par semaine. Sur ma mère, elle était quasi quotidienne. Sur mes demi-frères et sœurs, qui sont mes frères et sœurs, hein, elle était quotidienne, mais psychologique. Et donc, c'était un mix entre violence physique régulière et violence psychologique très importante.
Quand on parle des maltraitances, on pense forcément aux coups. Mmh. Mais les violences psychologiques, elles font parfois encore plus mal, quoi.
Elles ont fait mal à ma sœur et à mon frère. Mmh. Et il faut savoir que la CNAP, la Confédération nationale des associations de protection de l'enfance, gère 300 000 enfants par an. En France, il y a un enfant sur cinq qui est victime de violences sexuelles, physiques ou psychologiques. On pense tout de suite aux coups, bien évidemment, parce que c'est la chose qui se répète le plus. Mais on ne pense pas aux brimades, aux insultes, aux séquestrations, à la violence psychologique, au harcèlement, au fait de rabaisser les enfants. On ne parle pas de suicide infantile aussi. Et chez moi et chez ma mère, ça a été beaucoup de coups jusqu'à l'âge de 8 ans. Et le premier souvenir que j'ai avec mon père, c'est ma mère rue Saint-Vincent-de-Paul dans le 10e arrondissement qui court et qui a le visage tuméfié, qui est en sang et qui a la tête ouverte. Et moi qui me jette sur mon père en lui disant « arrête papa, arrête papa ». Et moi qui ensuite finis dans le crépi avec la tête ouverte. Ça s'est répété à de multiples reprises.
Après, vous alliez à l'hôpital quand même, ouais. Non ? Il fallait bien vous recoudre. Mmh. Et les médecins n'ont pas été alertés ?
Les médecins, il y a un médecin qui a compris, mais c'était devenu presque un jeu. Il y avait l'hôpital Lariboisière qui était en face, et c'était dans le 10e arrondissement de Paris. C'était peut-être devenu un jeu, c'était de dire il faut qu'on évite le chef de service. Il y a tellement de turnover dans les hôpitaux que parfois on voyait des internes, et les internes me disaient mais qu'est-ce qui se passe ? Et ma mère disait mais c'est un Pierre Richard, mon fils. Et souvent, je cachais ça.
Il est maladroit, quoi.
Ouais, il est maladroit, il est très maladroit. Un jour, c'est la table, un jour, c'est le mur, un jour, c'est le foot, un jour, c'est tomber dans la cour de récré.
Mais les coups, vous arriviez à les cacher à l'école, par exemple, parce que quand vous alliez à la piscine, comment on fait ?
C'est une scène que je raconte dans le livre. Un jour, je vais à la piscine Paul Valéry, et la veille, j'avais pris une raclée incroyable, mais très violente de la part de mon père. Donc, j'avais les côtes tuméfiées, j'avais plusieurs bleus sur le bras et sur les côtes. J'avais une cicatrice assez importante, j'avais un trou dans la tête. Et il y avait les cheveux, donc ça ne se voyait pas trop, mais il y avait les côtes qui étaient très tuméfiées et le bras qui était tout bleu. Et je voyais ma mère qui mettait du mascara, du fond de teint, du rouge à lèvres pour cacher les coups, qui mettait beaucoup de fond de teint. Ma maman était toujours magnifique, toujours. Mmh. Elle est toujours aujourd'hui. Et elle était aussi magnifique avec les violences qu'elle subissait et les stigmates. Et donc, je voyais ma mère dans la salle de bain en train de se maquiller, mettre du mascara, mettre du fond de teint. Et un jour, je me suis dit, je vais faire la même chose parce que je vais cacher à mes copains et à mes copines le fait que je sois en sang et que je sois bleu. J'avais 5 ans et demi, 6 ans, donc j'ai pris du fond de teint discrètement derrière ma mère. J'ai pris le fond de teint et j'ai aspergé mes côtes et mon bras de fond de teint. Et donc, je suis allé à la piscine Paul Valéry parce que je ne voulais pas le raconter à mes copains. Et je me suis jeté dans l'eau. Et en fait, le chlore a enlevé tout le maquillage. Et quand je suis sorti, j'ai couru tout de suite entre la piscine et les vestiaires pour me remettre un t-shirt et cacher ça parce que pour moi, j'avais honte.
En fait, on sent dans le bouquin que vous rivalisez de stratégies et d'idées pour cacher, pour détourner. Mais la police est venue plusieurs fois quand même chez vous, alertée par le voisinage. Et là, il n'y a pas eu de suite non plus. Vous n'avez jamais été tenté de les alerter quand même ?
Mais il faut comprendre que dans les années 90, les féminicides, ça n'existe pas. Un jour, un équipage de la police de nuit est venu à la maison, ils étaient trois. Le premier a dit « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Le deuxième a dit « mais de toute façon, chez les bougnoules, chez les bicots, chez les arabes, le mari tape toujours sa femme. » Le troisième a dit à ma mère « l'écoutez pas, c'est un débile. » Il s'est excusé, il lui a dit « mais madame, vous êtes en situation irrégulière, votre fils est au milieu d'une violence inouïe, on va devoir déclarer ça à l'assistante sociale, à la DAS. » Et il ne faut pas juger ces femmes. C'est-à-dire que, en plus, je suis dans une émission parfaite pour le dire. Faut pas juger ces femmes qui aiment leur mari. On est toujours en train de... Moi, j'ai aucune aigreur, aucune rancœur, aucune méchanceté envers mon père, aucune colère, vraiment juste des questions. Mais faut pas juger ces femmes qui sont sous emprise psychologique, emprise amoureuse. Ma mère, elle m'a toujours dit, mon père était le coup de foudre de sa vie. Mmh. Et emprise aussi par les papiers.
Oui, parce que ma mère... c'est important ce que vous dites, qu'elle était amoureuse.
Oui, elle était amoureuse de lui. Ma sœur, c'est à 8 ans que ma sœur a dit à ma mère, ma sœur, je l'aime plus que tout, Linda. Elle lui a dit, mais maman, mon petit frère, ton fils, va soit se suicider, soit sa vie, elle va mal partir, soit il va faire une bêtise un jour. Et ma mère était amoureuse de mon père. Et souvent, je découvre plein de messages, plein de femmes envoient des messages sur Instagram. J'ai fait des séances de dédicaces ce week-end avec des mamans qui étaient là et qui m'ont dit, vous ne nous jugez pas, en fait. Parce qu'il ne faut pas juger ces femmes. Il ne faut pas leur dire, vous avez tort de rester avec votre mari ou avec votre compagnon. Il faut leur dire, on va vous accompagner, on va vous écouter, on va vous conseiller. Et ma mère, pendant longtemps, a cru... Et elle s'en est voulu qu'il fallait garder ce cadre, d'avoir un père et une mère pour moi, et que j'avais peut-être besoin de cet amour paternel. Et finalement,
malgré
je s'est trompée.
Tout.
Parce qu'on peut être tous des pères et des mères, mais on n'est pas tous des papas et des mamans, en fait. Mmh. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman exceptionnelle, que j'ai toujours voulu protéger, et qui a comblé le manque d'avoir un père. Et ma maman était mon papa et ma maman.
Alors, à l'âge de 7 ans, vous habitez dans la cité des Francs, en Moisins, à Saint-Denis. Il y a une énième soirée de violence. Et là, ce sont vos voisins, et ça, c'est vraiment un truc très important, ce sont les voisins qui sont intervenus et qui ont fait figure de protecteurs ensuite avec vous.
Oui, Nadir et Aïda. J'habitais au
deuxième. Que vous voyez encore.
Oui, j'ai vu Aïda ce week-end, et elle m'a fait la surprise de venir à la séance de dédicace. C'est ma deuxième famille. C'est ma deuxième famille. Ils m'ont fait découvrir la tartiflette, les curly. Ils m'ont fait découvrir les soirées Monopoly, les soirées de la bonne paye. Ils avaient une fille. Et c'est là où j'ai découvert ce que c'était un couple.
Et une vie familiale normale,
vie familiale,
sans violence.
Sans violence. J'ai découvert l'amour chez eux. Ils adoraient leur fille. Ils m'ont aimé comme ils ont aimé leur fille. Et un jour, Aïda a dit « Stop, vous voulez rester entre adultes, il n'y a pas de souci. » Mais il a 7 ans, il n'a pas subir ça. Et Aïda est venue, il m'a fait monter... chez elle, et l'image que je garde, c'est dans l'embrasure de la porte, ma mère qui a le corps tuméfié, qui a l'arcade sourcilière ouverte, et je me dis, je vais abandonner ma mère, et je suis coupable. Je sens cette culpabilité en moi de dire, j'ai envie de vivre ma vie d'enfant, parce que j'ai envie de jouer à la bonne paye, mais j'ai pas envie de laisser mourir ma mère. Mais là, Aïda m'a dit, non, c'est pas une vie pour toi, ça.
Bah, c'est pas effectivement le rôle d'un enfant de protéger ses parents. Vers 8 ans, et l'intervention de votre... oncle, c'est grâce à lui qu'après un nouvel épisode de violence, votre père va être mis à la porte. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ?
En fait, mon père, lui aussi, et ça j'en suis persuadé, était amoureux de ma mère. Et mon oncle lui a dit, soit t'arrêtes cet enchaînement de violence, soit tu pars. Donc il est parti une fois parce qu'il s'est senti un peu humilié. Il a compris.
Après, il est venu vous chercher
à
l'école.
Il est venu me chercher à l'école, il a prétexté un vaccin. Donc l'école m'a laissé partir avec lui. On était en fin de matinée sur la pause quasiment du midi. J'allais à la cantine, on a croisé une voisine. Donc, on ne lui a pas dit bonjour. Et j'ai vu là un van d'une marque allemande exceptionnelle, une voiture, c'est la première fois que je voyais ça. Pour moi, c'était la voiture d'un personnage des Marvel ou d'un super-héros. Cette voiture, elle était magnifique. Et donc, il m'a dit, on part en week-end à Marseille avec ta mère. Et on a pris la route, là, c'était la musique à fond, des bonbons, des sandwichs, des BD, des bandes dessinées. Et on arrivait sur Marseille et il m'a dit, ta mère ne viendra pas. Donc là, j'ai été très surpris. Et le lendemain, il m'a dit, on va passer une petite semaine en Algérie et ta mère nous rejoint là-bas. Et dès qu'il m'a dit ça, ma mère qui m'avait un peu briefé, élevé sur tout ce qu'il ne fallait pas faire, j'ai compris que l'Algérie, c'était l'exil. J'ai compris que l'Algérie, c'était un enlèvement, que c'était un rapt. J'avais 8 ans, quasiment 8 ans. Et donc là, j'ai essayé Elle m'a dit, ma mère m'a toujours dit, dès que tu vois la police, si ça t'arrive, il faut crier. Et on est arrivé sur le port de Marseille, et je vois le bateau, et je vois une voiture de police passer. J'ouvre la fenêtre pour crier, et aucun mot ne sort de ma bouche. Je suis apeuré, et je vois juste un policier me faire un petit signe du pouce, en mode contrôle. Et donc là, ils viennent contrôler la voiture, et finalement, ils disent à mon père qu'il ne peut pas m'emmener en dehors de l'Europe, en dehors de la France, sans une autorisation de ma maman. Ils m'emmènent au commissariat, et donc ma maman me récupère, et c'est la voisine qui nous avait vus en sortant de l'école, qui avait déclaré ça à ma mère, qui l'avait appelée en lui disant « Mais c'est bizarre, ton fils est avec ton mari. » Et c'est là qu'on a déclenché toute cette opération pour me sauver.
In extremis. Au lycée, vous prenez de passion pour le métier de journaliste.
Ouais.
C'est grâce à cette vocation, c'est grâce surtout à votre détermination, à votre intelligence. Hein. On la sent tellement dans votre bouquin. Vous intégrez une école de journalisme, vous débutez votre carrière à RMC comme journaliste sportif. Et en 2018, pendant une soirée vraiment hors du commun, vous êtes à la rédaction. Et là, votre père va surgir une dernière fois dans votre vie.
Ouais, 17 ans après. C'était le 24 ou le 25 janvier 2018. Je quittais RMC après une soirée incroyable, après une soirée dingue que je raconte. Et là, devant l'officier de sécurité de RMC, mon père est devant la porte. Et c'est la première fois que je le vois depuis 17 ans. Et il me lâche ces mots, c'est une surprise. Et je lui dis, non, c'est pas une surprise, je lui dis, c'est un choc. Une surprise, c'est quand ton papa va à New York ou à Londres et qu'il revient au bout de 5 jours avec des cadeaux. Et donc, je l'ai invité à dîner. J'avais un dîner, j'ai annulé. J'ai gardé la table pour l'inviter à dîner. Et pendant 2 heures, on est restés ensemble. Et on n'avait rien à se dire. On n'avait rien à se dire. Il m'a parlé de ses enfants. Moi, j'avais plein de questions. Et encore une fois, la culpabilité. Je ne voulais pas le vexer. Je ne voulais pas le blesser. J'avais juste envie de lui demander pourquoi tu ne m'as jamais aimé.
Vous l'avez protégé aussi, quoi.
Ouais. Oui, parce que ça reste mon père. Et je dis, j'ai pas de colère. J'ai pas de haine en moi. J'ai pas de rancœur. c'est quoi qu'il arrive, c'est un lien généalogique. J'ai pas de, je lui souhaite juste d'être heureux. Je sais qu'il a des enfants. On a parlé de ses enfants à table. Il m'a dit, bah, ton meilleur ami, c'est DJ Snake. J'espère que tu pourrais m'avoir des places pour son concert pour ma fille. Il m'a dit, t'es proche des joueurs du PSG. Est-ce que tu peux m'avoir le maillot de Mbappé? Et même ça, ça a été une violence inouïe parce qu'il a pas. Il m'a dit, l'ifet met. C'est une expression arabe qui dit ce qui est passé est mort. Et je suis sorti du dîner en étant. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps entre le restaurant et la maison parce que j'ai pas compris comment 17 ans après on ne peut pas revenir sur ça.
Bonjour Mélanie Dupont.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue auprès d'enfants et d'adolescents victimes de violences physiques, psychologiques ou sexuelles, et sexuelles parfois, hein, à l'Hôtel Dieu à Paris. Vous êtes aussi présidente de l'association Centre de Victimologie pour Mineurs, CVM. Merci d'être avec nous donc, ce matin. Merci. On l'a vu dans le témoignage de Mohamed, ce qui est toujours hallucinant dans ce jour de témoignage, c'est la culpabilité. Alors chez Mohamed, ça revient tout le temps, vis-à-vis de la mère, vis-à-vis du père, vis-à-vis de l'entourage. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un enfant culpabilise envers son parent violent?
Alors, déjà, dans un premier temps, je voulais juste saluer le témoignage de Mohamed Bouafsi. C'est un témoignage
central et très important. Il le fait vraiment pour la cause. Je crois que ce n'est pas facile de revenir.
Complètement. Pour répondre à votre question sur la culpabilité, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la culpabilité, souvent, c'est un sentiment que les victimes éprouvent. Un sentiment très complexe. Il va y avoir peut-être une utilité à cette culpabilité. C'est de comprendre que la violence plonge dans une passivité, dans une impuissance phénoménale, et que la culpabilité, c'est de dire « et si ?» Et si j'avais fait ça? Et si j'avais fait ci? Donc on retrouve un peu une posture un peu plus active, actrice, qui peut être salvatrice, un peu un mécanisme de défense. Alors ça, c'est quand, j'ai envie de dire, elle n'est pas trop pesante. Par contre, il y a des culpabilités beaucoup trop harassantes qui vont faire effectivement que ça va être encore plus compliqué. Mais c'est assez indissociable, en fait, finalement,
oui,
la culpabilité de se sentir victime.
On a reçu un témoignage et surtout une question pour vous de Charlotte en vidéo. Regardez.
Bonjour la maison des maternelles, j'ai subi des violences psychologiques quand j'étais plus jeune et je voulais savoir comment expliquer à notre enfant notre histoire et pourquoi on a coupé les ponts avec certaines personnes toxiques, sans bien sûr lui faire porter le poids de cette histoire. Je vous remercie, vous êtes super.
Je trouve que cette question, elle est superbe, tout simplement parce que cette maman se pose une bonne question qui est de dire comment je vais transmettre mon histoire et donc son histoire aussi à son enfant. Et ça, c'est pas simple de le faire. Je crois qu'il faut être assez simple dans les mots qu'on va utiliser, c'est-à-dire utiliser ses mots, ses propres mots, son propre vocabulaire et aussi peut-être réfléchir à ce qu'on va être capable de dire ou pas. Ne pas aller aussi sur des sentiers où c'est peut-être un peu trop compliqué. Ce qui est important, c'est voilà, de pouvoir en discuter assez simplement. Et de dire que il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie d'enfant, quand j'étais enfant, avec tel ou tel parent, et que des fois, il faut mieux aussi se séparer des personnes un peu toxiques qui nous font du mal parce que la violence est juste interdite.
On l'a vu, parfois, c'est l'entourage qui peut jouer un rôle déterminant. Quels sont les signes, c'est une question d'Étienne, qui peuvent alerter justement l'entourage qu'un enfant est maltraité? Comment déceler ça?
Alors, votre question, elle est importante aussi, vous dites les signes. Parce qu'il n'en existe pas un seul. C'est toute la difficulté de la maltraitance et de la violence, c'est qu'on ne va pas avoir le signe qui va dire « Tiens, cet enfant-là vit de la violence. » Donc c'est une multitude de signes. Tout ce qui va être en fait un moyen d'expression pour l'enfant, et en fonction de son âge, ça va être différent. Plus il est jeune, plus ça va être des signes comportementaux, plus il grandit, plus il va avoir accès au langage. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est en fait de pouvoir se poser une question face à un comportement problématique. Par exemple, des enfants qui vont être beaucoup, enfin, les enfants agités, les enfants qui ont des troubles du comportement, ceux qu'on voit beaucoup, beaucoup, on se dit, ok, enfin, ça peut être d'autres choses, hein, mais ça peut aussi être un signe de violence. Comme, de manière totalement opposée, les enfants qui sont les enfants modèles, qu'on ne voit pas dans la classe ou tout bout, qui ont des super notes, qui ont des... vraiment les enfants qui ne bronchent pas, mais qui ont juste bien compris aussi que moins ils faisaient
de vagues.
Voilà, plus c'est, enfin, moins il y avait de violence, en fait, tout simplement. Donc, on va avoir, après, bien évidemment, tous les signes physiques. Mohamed Bouafsi en a beaucoup parlé, de cette question des stigmates. Il faut pouvoir les voir aussi.
Oui, pouvoir les voir.
Et puis souvent, on va avoir des manches longues, on va avoir des bonnets, on va cacher, en fait, toutes ces violences-là.
Il y a une question qui revient beaucoup. Que faire si on entend du bruit? Manon, par exemple, dit « J'entends beaucoup de bruit et de pleurs d'enfants au-dessus de chez moi. Je crains que les enfants ne soient maltraités. Comment doit-on réagir ?»
Peut-être deux options, j'ai envie de dire. Soit la première option, c'est d'aller directement taper à la porte de chez nos voisins et juste de dire est-ce que tout va bien. Donc de ne pas être dans le jugement tout de suite, mais de pouvoir se dire j'entends effectivement beaucoup de bruit, donc est-ce que vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit d'autre.
Alors ça c'est l'idéal,
c'est l'idéal.
C'est pas simple.
C'est pas simple. Si on ne souhaite pas effectivement directement se déplacer, on en a parlé tout à l'heure avec Mohamed Wafsi, le 119. C'est un numéro d'appel gratuit, confidentiel. Les professionnels qui sont derrière sont experts de ce domaine-là. Donc ils sauront écouter, ils sauront vous orienter, ils sauront quoi faire face à ces situations.
Et c'est anonyme ou pas ?
Alors ils peuvent lever l'anonymat. C'est-à-dire qu'ils ont ce pouvoir-là aussi, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on peut cacher notre identité. Par contre, s'ils ont connaissance d'une situation où l'enfant est en danger, l'anonymat se lève.
Non, mais je pense que sa question, c'était est-ce que la personne qui appelle, si moi j'appelle pour mes voisins, moi, est-ce que voisins sauront que c'est moi qui ai appelé ?
Non.
Que c'était ça.
Oui, oui, c'est ça. Ouais.
Pardon, excusez-moi.
J'ai fait semblant de comprendre votre réponse. C'est souvent quand on est animatrice télé, vous savez. C'est comme ça. Non, mais je me suis dit, bon.
On peut dire qu'effectivement, enfin, on peut cacher son identité.
Je pense que les gens hésitent parce qu'ils disent, là, on va avoir des représailles, ils vont venir.
Et puis si le type est potentiellement violent, c'est ça aussi l'idée.
Ça fait
bien sûr se protéger. Après, ce qu'il faut entendre aussi, c'est qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence. Donc, il faut mieux, même signaler à outrance plutôt que de passer à côté d'une situation de violence.
Mais quand on signale, qu'est-ce qui se passe justement derrière ?
Alors signalement, il va y avoir deux possibilités. Il y a le signalement judiciaire, comme une plainte, où on va là s'adresser au procureur de la République. Le procureur de la République, il a deux fonctions. Déjà d'une, protéger l'enfant dans l'immédiateté, s'il y a des mesures à prendre immédiatement pour protéger l'enfant, telles qu'un placement, qui est la mesure un peu ultime. Mmh. Mais surtout, il va pouvoir poursuivre l'infraction, c'est-à-dire de pouvoir condamner les auteurs de ces violences. De l'autre côté, on va avoir l'aide sociale à l'enfance qui va pouvoir, elle, faire une enquête sociale et plus investiguer au sein de la famille et pouvoir proposer des mesures éducatives si les parents en ont besoin.
Mais donc, quand on appelle le 119, qu'est-ce qui se passe directement après ? C'est l'aide sociale à l'enfance qui...
Ça va être en fait en fonction de la situation qui est amenée. Mm-hmm. Soit il y a un danger immédiat et on voit que là, il faut effectivement l'intervention peut-être du procureur. Il y a une infraction qui a été commise. Soit on a des doutes, on ne sait pas trop. Et ce n'est pas grave d'avoir des doutes, justement, c'est bien. Mm-hmm. Et là, c'est effectivement peut-être plus aussi les enquêteurs et aussi au niveau de l'aide sociale à l'enfance où ils vont pouvoir enquêter pour investiguer tout simplement et savoir ce qui se passe.
Mmh. Anna, on a déjà beaucoup raconté ici que vous êtes sage-femme, vous allez à domicile, vous avez beaucoup, notamment les violences conjugales. Oui. Vous pouvez constater vous-même en tant que sage-femme. Les violences vis-à-vis des enfants aussi, ça vous est déjà arrivé de faire des signalements ?
Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des signalements avec des... À l'occurrence, c'était des pères qui avaient des violences assez... vraiment grave sur des enfants, sur leurs aînés en fait, sur des enfants d'un an et demi, 2 ans, 3 ans.
J'imagine que quand vous êtes là, comment vous sentez,
je me rappelle d'un père qui avait donné un coup de pied à un enfant d'un an, c'était évidemment particulièrement choquant, et il n'avait même pas conscience de la gravité de son geste, alors que pourtant ça avait l'air d'être un truc ancré dans le quotidien. Donc, c'est des situations auxquelles on est souvent confronté quand on fait du domicile, bien sûr.
Et vous là aussi
quand. Et puis des fois on sent, on se dit, oulala, l'enfant, l'aîné, il va pas, ça va pas quoi. Il y a un truc qui est, ça va pas. Et donc là, on fait des visites supplémentaires, on invente des motifs pour revenir jusqu'à
appeler le procureur là directement. Vous
voilà, appelez... souvent je fais un signalement à la PMI. Enfin, je suis pas toute seule dans mon coin. Je reste pas toute seule en première ligne.
Guylaine vous demande pourquoi les enfants ne parlent-ils pas des violences qu'ils subissent.
Tout simplement parce que la violence isole, elle plonge la victime dans un isolement, dans un silence, dans un mutisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. On a beaucoup parlé de la culpabilité, mais il y a la honte aussi. On a quand même honte de ce qui se passe à la maison, de ces dévalorisations, de ces humiliations. Il peut y avoir la peur de représailles de l'auteur, la peur, je repense à Mohamed Bouafsi, pour sa propre mère, la peur de faire éclater aussi la famille. Donc il y a vraiment beaucoup de facteurs qui vont intervenir.
La loyauté aussi ?
Bien sûr.
Ouais. Bien sûr. Et puis l'amour aussi. Parce que
et l'amour.
Et l'amour. On sent bien que Mohamed, il aime son père. C'est ça qui est terrible. Et donc, forcément, les gens qu'on aime, on a envie de les protéger malgré tout. Est-ce que parfois aussi, les enfants n'ont pas conscience ? Ils se disent que c'est partout pareil.
Bien sûr. On va avoir des enfants qui, jusqu'à l'adolescence, ne vont pas se dire que c'est anormal, en fait, ce qu'ils vivent. Le coup de pied, c'est comme ça, en fait. Tous les enfants subissent le coup de pied. Donc, il y a effectivement cette normalité qui va, en fait, être mise à mal lors de la confrontation avec les enfants et adolescents, enfin, les autres familles, et se dire, mais en fait, ce que je vis, ce n'est pas du tout normal. Donc, c'est là où on va effectivement pouvoir se confronter à ça.
Jérémy vous dit « Je suis un jeune instituteur, comment réagir si on soupçonne de la maltraitance chez l'un des élèves ? Existe-t-il des formations pour aider les enseignants ? » C'est vrai qu'ils sont quand même au contact direct.
En première ligne. Je reprends ce que vous venez de dire, pas rester seul. C'est que c'est vraiment, la violence, elle est aussi pour celui qui en est dépositaire, elle isole. Donc vraiment, c'est se faire entourer. Et alors, au niveau des instituteurs, il peut y avoir alors, les services, le service social, par exemple, de l'éducation nationale qui est disponible. On peut avoir la PMI, on peut avoir ce qu'on appelle la cellule de recueil des informations préoccupantes, la CRIP. On peut avoir aussi des référents hospitaliers qui sont en train des équipes pédiatriques référentes qui sont en train de se monter. Mm-hmm. Donc c'est de faire appel à de l'aide, à des collègues. Et alors, pour répondre à la deuxième question, oui, il existe des formations et il ne faut surtout pas hésiter à les suivre.
Cet instituteur, par exemple, s'il soupçonne qu'un de ses élèves est maltraité, comment est-ce qu'il pourrait s'adresser à lui pour ne pas le brusquer, par exemple ?
Alors ça, c'est vraiment aussi important, cette question-là, c'est-à-dire de ne pas orienter les questions et de ne pas brusquer, tout simplement en demandant, enfin, comment ça va ? Je note que ça ne va pas trop. En tout cas, moi, je vois des choses. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent ? Donc d'être vraiment dans ce qu'on appelle les questions ouvertes, très générales, mais que l'enfant aussi comprenne que là, il y a un adulte qui se pose des questions et qui a vu.
Qui s'intéresse.
Célia vous demande, la violence faite aux enfants commence-t-elle souvent par des violences conjugales ?
Alors, commence oui et non. C'est-à-dire que les violences conjugales sont un facteur qui va faire effectivement qu'il va y avoir des violences après à destination de l'enfant. Je pense ça parce que je suis enceinte, donc j'ai beaucoup aimé quand ma sage-femme m'a demandé, sinon à la maison, comment ça se passe ? Votre mari, comment ça se passe ? Elle pose des questions.
Ça, vous posez systématiquement.
Et c'est la meilleure des préventions. Donc effectivement, c'est déjà pouvoir poser ces questions-là. Et les violences conjugales, et la grossesse notamment, est un moment un peu particulier où les violences peuvent se déclencher.
Ouais, souvent, ça commence pendant la grossesse.
Oui, parce que l'équilibre d'avant est rompu par la
tout
fin
à fait,
des choses.
Tout à fait. Mmh. Et après, ce qu'il faut entendre aussi, c'est que la recherche le montre bien, c'est qu'entre 40 à 60% des parents auteurs de violences conjugales sont des parents violents, directement à destination de l'enfant lui-même. Donc, au-delà de la violence psychologique dans laquelle vit l'enfant, puisqu'il voit ses parents... De manière générale, on va dire...
La mère se faire taper, oui.
La mère se faire taper, ce qui est une violence psychologique insupportable. On va avoir, dans 40 à 60% des situations, où c'est de la violence directe, physique, sexuelle aussi potentielle, adressée à l'enfant.
Et les violences venant des mamans, ça existe aussi ou c'est vraiment à la marge ?
Alors, c'est à la marge, ça existe, mais c'est aussi beaucoup plus tabou. On n'en parle pas parce qu'on a du mal aussi à entendre qu'une femme, qu'une mère puisse être violente. Et notamment là aussi, dans les violences sexuelles, on ne peut pas entendre qu'il y ait de l'inceste du côté des mamans alors que ça existe, malheureusement aussi. Donc il faut aussi se poser des questions dans toutes les situations. De toute façon, si on a un enfant qui ne va pas bien, c'est se poser des questions.
Moïra vous demande si les parents maltraitants peuvent sortir de la spirale des violences et comment ils sont aidés et accompagnés.
C'est l'objectif de l'accompagnement des professionnels. Enfin, la protection de l'enfance en France est pensée comme ça. C'est-à-dire que l'objectif de cette protection de l'enfance, c'est de pouvoir accompagner les familles, soutenir les parents dans leur parentalité. Donc c'est là où il va falloir évaluer, parce qu'il y a des fois où des parents sont négligents, ils sont maltraitants, mais parce qu'ils ont toute une histoire, c'est très compliqué pour eux. Donc l'aide va pouvoir les sortir, comme vous dites, de ce côté maltraitant. Et puis, à contrario, il y a des situations où je crois qu'il faut aussi faire le deuil de cette famille, enfin de parents en tout cas, qui vont être potentiellement bien traitants et qu'ils ne sont pas en capacité de l'être. Donc dans ce cas-là, il y a peut-être d'autres mesures, effectivement, à avoir.
Ouais.
Joanne vous demande quel est l'impact des violences sur le cerveau des enfants et des ados ?
Très bonne question. L'impact, il est multiple. C'est vrai qu'on a pendant très longtemps, on a pensé que c'était uniquement psychologique. En fait, la recherche montre de plus en plus que c'est des modifications même biophysiologiques. L'impact, il va être durable. L'impact, c'est que c'est bien ancré, en fait. On parle de la trace traumatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où ça se passe, c'est que les mécanismes de défense sont totalement débordés. Donc, nos mécanismes habituels qu'on a tout à chacun sont totalement débordés. Ce qui va venir, en fait, c'est faire effraction. Donc, c'est comme si l'événement, il était là tout le temps. C'est-à-dire que moi, si j'étais traumatisée, je suis avec vous, mais il y a une partie de moi qui est toujours au moment où ça se passe. Et avec des violences chroniques répétées, c'est là où c'est compliqué. Donc, généralement, en fait, le symptôme le plus courant, c'est aussi cette question du trauma relationnel. Puisqu'en fait, là, il s'agit quand même de personnes proches qui sont censées nous aimer, nous protéger. Donc, ce qui va être très difficile, c'est ce trauma relationnel, et c'est de pouvoir à nouveau faire confiance dans l'autre, dans l'espèce humaine même. Donc, c'est ça qui va être assez compliqué.
Ninon vous demande par quels moyens on peut se reconstruire quand il y a eu de la maltraitance.
En parlant. Déjà, c'est la première des choses, c'est d'en parler, de ne pas garder ça pour soi, de trouver des personnes en qui on a suffisamment confiance hein, pour pouvoir en parler. Et après, on va avoir plein de choses. Donc, on l'a vu d'ailleurs avec le témoignage de Mohamed Bouassi, à quel point les personnes autour de lui ont compté, les voisins, sa mère. Le trauma relationnel, c'est ça, il faut le réparer par des expériences de vie et des expériences relationnelles.
Il faut avoir des figures, je dirais, normales, même si...
Bienveillantes,
c'est ça.
En qui on peut avoir confiance, et rien que ça, on a déjà réparé beaucoup.
Ça peut être un prof, un voisin, le sport, une tante,
bien sûr.
Voilà, un coach. Ouais.
Peu importe, quelqu'un. Un autre être humain qui vient un peu contrebalancer justement les violences.
Qui remet un peu la justice. Quoi.
Exactement. Mm. Et puis après, on a bien évidemment toutes les aides qui sont disponibles. Donc, médicales, somatiques, parce que ça a un impact sur le corps. Mm-hmm. Psychologiques, bien évidemment, si on se sent prêt à aller voir un psychologue. Et puis après, effectivement, je parlais du sport, parce que c'est aussi un bon moyen, un exutoire. Tout ce qui va être d'autres activités. Enfin, vraiment, on ne se prive de rien.
Voilà, merci beaucoup à la psychologue Mélanie Dupont d'être venue nous voir dans la maison des maternelles et merci infiniment à Mohamed Bouafsi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve demain, mardi, pour un nouvel épisode du podcast des maternelles. N'hésitez pas, hein, vous connaissez l'adage, n'hésitez pas à venir sur les différents réseaux sociaux, enfin surtout sur Instagram, pour me dire s'il y a des sujets que vous souhaitez voir abordés en podcast. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, de nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. À demain, ciao.